Bonsoir mes frères et sœurs, quel plaisir de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Le titre de ma prédication est celui-ci, « Quand Dieu dit cette fois ». D'accord ? Ça vous fait penser à un texte ? Alors on va lire dans Deux Rois au chapitre 5, une histoire extraordinaire que Dieu a laissée, comme on le sait dans les Écritures, pour que ces choses nous instruisent et que l'on fasse de belles expériences avec Dieu. Vous avez envie de faire des expériences avec Dieu ? Antoine ? Bon, je vois qu'il m'écoute à côté. Alors, 2 Rois chapitre 5, verset 1er. C'est une histoire merveilleuse qui nous montre que Dieu peut utiliser n'importe où, n'importe quand. Là, si vous connaissez un peu le contexte, imaginez-vous, c'est un Syrien, ennemi d'Israël, qui a mis la pâtée au peuple d'Israël. Tenez-vous bien. Et Dieu va bénir cet homme. Alors, vous êtes prêts pour lire l'histoire ? Allez, on la lit. 2 Rois chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort était vaillant et lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Il y a des témoignages qui sont rapides. Hein? Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent. Quand on sait qu'un talent, ça fait 49 kilos de sang. Oui, il est parti, il n'est pas parti de ma vie. 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète... t'avais demandé quelque chose de difficile. Ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit donc et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Vous lirez la suite à la maison. Quelle histoire, quelle merveilleuse histoire. Non ? Elle est là dans la Bible. Elle est là dans la Bible parce que Dieu a jugé bon qu'on avait, nous aussi, besoin de cette histoire. Est-ce que tout ce que Dieu a fait est inscrit dans la Bible ? Non. Ce qui est inscrit, on en a besoin. Et là, vous avez un homme étranger à Israël qui a fait battre le peuple d'Israël, qui en plus a ramené des esclaves d'Israël chez lui, et cet homme, il va être béni. Vous ne trouvez pas ça scandaleux ? D'ailleurs, regardez dans le Nouveau Testament, quand Jésus fait allusion à cette histoire, comment les religieux sont furieux. Ils sont furieux parce que Jésus dit qu'à cette époque-là, un homme qui a été béni, c'était un étranger à Israël, en plus un général de l'armée. En fait, c'est complètement pathétique. Mais ça nous montre quoi ? eh bien que Dieu, il fait exception de personne. Et quand même si on a été contre Dieu, contre Israël, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien Dieu, il peut vous bénir. Ça ne vous rassure pas? Peut-être qu'il y a des gens qui sont contre Dieu, ils sont contre l'Église, ils sont contre les assemblées, ils sont... Mais il peut y avoir un moment où la grâce de Dieu va nous être accordée, et comment? Même si notre cœur est embrouillé, enfermé dans de l'orgueil, dans des idées, voyez, lui, à un moment, c'est quoi, comment il dit? Il se disait, voyez, je me disais au verset 11, il se disait que ça allait se passer comme ça. Vous voyez, c'était un général, il s'autorisait. Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais !» Voilà comment ça se passera. Quand on est général, on est habitué à diriger, à commander. Hein, quand on est dans l'armée, hein, n'est-ce pas, hein, on est habitué, après à donner des ordres, il se disait que ça se passerait comme ça. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ça ne se passera pas forcément comme nous, on pense. Mais qu'il y a une bénédiction. Moi, j'aime ce texte parce que c'est quelqu'un, vous vous rendez compte, après le roi, c'était la deuxième personne du territoire. Vous voyez, qu'est-ce qu'il nous a dit de cet homme? Vous avez vu, il jouissait de la faveur de son maître, d'une grande considération. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Quand vous regardez les livres de l'histoire, vous verrez que c'est pas raconté comme ça. Mais la Bible nous enseigne que c'était Dieu qui avait permis ça. Cet homme, il était fort, il était vaillant. C'est pas bien ça? Vous aimeriez qu'on parle de vous comme ça? Est-ce que vous aimeriez qu'on parle de vous comme ça? Mettez votre prénom, jouissez de la faveur de son maître, d'une grande considération. Oui, cet homme, il était honoré. Il était honoré. Est-ce que c'est bien d'être honoré? Est-ce que c'est bien? Par les hommes? Ben oui, c'est bien. Ben oui. Faut pas non plus tout mépriser. Vous voyez? Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a un mais. Cet homme, il était lépreux. Tout général qu'il était, tout gloire, plein de gloire qu'il était, il avait la lèpre, comme nous d'ailleurs. On est tous des lépreux. Ça, il faut l'accepter. L'humilité doit nous amener tous à accepter qu'on est des pécheurs. Vous êtes d'accord? On est tous des pécheurs. Ça, c'est pour ça qu'on est là. Parce qu'on a eu, l'honnêteté d'accepter que nous étions des pécheurs. Si on est là ce soir, que vous connaissez l'Église, que vous découvrez l'Évangile, c'est parce que vous avez eu cette intelligence de dire, oui, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, on est tous des pécheurs. C'est comme ça que la bénédiction commence. Et cet homme, je sais pas, un jour, en se rasant peut-être, comment il a découvert une tâche, où était cette tâche? Il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette tâche? Cette tâche, non. Peut-être il a regardé, au bout de 15 jours, ça a grossi. La lèpre, vous savez, c'est des tâches qui... Et il a vu ça dans le miroir, c'est obligé. Peut-être c'est quelqu'un qui lui a dit, est-ce qu'il l'a caché, j'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que la Bible, c'est un miroir. Et qu'au moment ou un autre, à force de lire la Bible, on reconnaît qu'on est perdu. Tout le monde reconnaît qu'on est perdu. Quelqu'un qui est intelligent dit, on est tous des pécheurs. C'est la première chose qui se passe lorsque on découvre l'Évangile. Au bout d'un moment, on se dit, mais je suis perdu. Je suis un homme perdu. Je suis destiné à l'enfer. Donc cet homme, malgré le fait qu'il soit général, Dieu va vouloir lui faire grâce. Une parole, une seule parole d'une petite fille esclave dans sa maison. En plus, cette fille, elle représente vraiment les chrétiens qui rendent mon témoignage. Parce que cette fille, elle a peut-être vu toute sa famille se faire massacrer. Oui ou non? Est-ce que c'est possible? Oui. Cette gosse, je ne sais pas quel âge j'avais, 10 ans, 12 ans, c'était une esclave qui avait été ramenée d'Israël en Syrie, parce que ça se passait comme ça. Voilà, avec tout un groupe de gosses peut-être. Et hop, elle a abouti dans la maison de Naaman. Et cette fille, c'est beau quand même d'avoir un bon témoignage. Elle aurait pu être remplie d'amertume. Elle aurait pu dire, attends, c'est pas lui que je vais lui parler de Dieu, c'est à cause de lui que je suis là. Est-ce que c'était pas à cause de lui? Oui, c'était à cause de lui, vous rendez compte? Elle a dit, voilà, toute ma famille est massacrée, j'ai vu ma mère mourir sous mes yeux, j'ai vu mon frère mourir, il a été massacré. Et cette gosse, vous avez vu ce qu'elle dit? Une parole. Oh, si mon maître, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. En tous les cas, c'est un encouragement pour nous, chrétiens, que même un tout petit témoignage peut suffire amener la bénédiction sur quelqu'un. Nous avons l'impression des fois qu'il faut donner des témoignages de 3 heures. Des fois juste, si tu connaissais la grâce de Dieu. Oui, c'est encourageant ça. Parce que des fois on voit des gens, on ne peut pas leur parler pendant des heures. Mais tu sais, je prierai pour toi, pour que tu connaisses la grâce de Dieu. Eh bien voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette fille, cette petite fille, pourtant qui n'était qu'une esclave. Une étrangère. La servante, la maîtresse aurait pu dire, écoutez, oui, c'est bon, calme-toi. Mais vous savez, je crois que Dieu essaie de nous parler. C'est un encouragement pour nous que Dieu saura mettre quelqu'un sur la route de personnes pour qui on prie. Vous croyez que Dieu peut mettre quelqu'un sur la route de quelqu'un qui est contre Dieu? Mais voilà, cette histoire, elle est là dans la Bible, il y a des milliers d'enseignements, pas des milliers, j'exagère, mais il y a une dizaine d'enseignements à tirer de cette histoire pour nous encourager et même à rendre un témoignage qui est très succinct. Parce que je crois peut-être que des fois, notre meilleur témoignage, c'est quand on est sobre et que l'on vit quelque chose. Est-ce que Dieu peut interpeller quelqu'un juste avec une parole, que la paix de Dieu soit sur vous? Moi, je le crois. Et c'est pour ça que l'on doit réaliser qu'un simple témoignage peut amener une démarche, et que même si on a été un ennemi de Dieu, parce que moi, franchement, la première fois que j'ai lu cette histoire, je me suis demandé si je rêvais pas quand j'ai lu que c'était le chef de l'armée de Syrie qui a été béni par Dieu. Ça frise de l'humour. Comme quoi Dieu, vous voyez, il veut nous montrer qu'il bénit, d'autant plus qu'à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de juifs qui ont été bénis. C'est comme la veuve, quand il y a eu la famine en Samarie, que c'est une pauvre étrangère qui a été bénie pendant la famine, et qu'en Israël, ils tiraient toute la langue, et que ça a été une étrangère qui a été bénie. Comme quoi, vous voyez, ne regardons pas aux apparences, mais regardons à Dieu qui voit tout, qui sait tout, et qui sait exactement comment bénir quelqu'un. Alors après le général, il va faire sa démarche, il va commencer, vous voyez, ça ne va pas se passer comme il avait prévu. Il devait aller voir le prophète et puis il a fallu que ça passe par le roi. Enfin, il faut être simple avec Dieu. Vous savez, comme Michael le disait, le chemin, c'est Jésus. Vous avez vu là, il va commencer à faire une lettre au roi. Est-ce que c'est ce que la petite fille avait dit? Non, il fallait voir le prophète. Et là, il y a le protocole, voilà, il y a une lettre qui est envoyée au roi. Vous avez vu comment le roi réagit, comment le roi était spirituel, etc., etc. Il faut être simple avec Dieu. Invoquez la grâce de Jésus. N'essayez pas de passer par quatre chemins. Ce n'est pas la peine de passer par des intermédiaires. Il n'y en a pas. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Le seul sauveur, c'est Jésus. Quand c'est Philippe. C'est Philippe qui se posait la question quand Jésus a dit... vous savez, voilà, je voulais vous préparer une maison dans le ciel, que votre cœur ne se trouble pas. Quand j'aurai préparé votre maison dans le ciel, je viendrai vous chercher afin que là où j'y suis, vous y soyez aussi. Et Philippe, il dit, mais comment un homme, il peut aller de la terre au ciel? Ça le préoccupe, ça. Et Jésus lui dit, mais attends, ça fait 3 ans que tu es avec moi, et t'as pas compris. Tu n'as pas compris que je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Philippe, lui, il était embarqué dans son truc, comme quoi c'était un pasteur. Ça fait 3 ans et demi qu'il était avec Jésus, il n'avait pas compris que le seul chemin, c'est Jésus. Et là, on sent, vous voyez, que de suite, l'homme, il est compliqué, il faut toujours quelqu'un, voilà, il est le roi, et on va passer par le roi. Ça a failli mal tourner en plus, heureusement que le prophète est intervenu. Ça a failli mal tourner, cette histoire, vous avez vu? Parce qu'on essaie de trouver deux protocoles. Bon. Puis après, le général, il arrive chez Élisée, et vous avez vu comment pourtant c'était important, il recevait le général. Et Élisée s'est même pas déplacé. Alors ça a été en colère. Il aurait pu sortir. Oui. Il a envoyé un serviteur pour me dire, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors ça, il n'a pas du tout apprécié. Lui qui était habitué aux honneurs, vous l'avez vu, comme moi, hein? Il sort même pas. Et Élisée lui fit dire par un messager. Alors là, il est en colère. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Il y a, lorsque la parole de Dieu nous est adressée, ça peut révéler où on en est. Même si Dieu veut nous bénir, en même temps, la parole de Dieu nous permet de comprendre où nous en sommes aussi. C'est ça qui est bien. Et ça révèle quand même son orgueil. Il n'est pas content, il dit, quand même, me plonger 7 fois dans le Jourdain, n'importe quoi. D'ailleurs, il a failli repartir. Vous avez vu? Et heureusement qu'il avait des serviteurs intelligents qui lui ont dit, mais attends. Si Élisée t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait? Il est arrivé avec de l'argent, de l'or, des habits de luxe, bien sûr. Et il lui a dit, mais s'il t'avait demandé tout ton argent, est-ce qu'il lui aurait donné? Si Élisée lui avait dit, écoute, donne-moi tout l'or que tu as amené, tout l'argent que tu as amené, tous tes habits précieux que tu m'as amené, mets-les dans ma maison, et je priais pour que Dieu te guérisse. Est-ce qu'il l'aurait fait? Oui, il l'aurait fait. Et il faut que nous nous souvenions d'une chose, c'est que la bénédiction, ça ne s'achète pas. Dieu ne voulait pas guérir le général. Ce n'est pas un péché d'être général, ce que je veux dire. Ce n'est pas un péché d'être dans l'armée. C'est pas un péché. Non mais, est-ce que vous comprenez? Dieu ne voulait pas guérir le général de l'armée. Dieu voulait guérir le pécheur Naaman. Est-ce que vous comprenez la différence? Dieu ne regarde pas à nos titres, à nos grades, à nos capacités. Dieu regarde à l'homme. Dieu il voulait guérir Naaman. Par contre, c'est pas un péché d'être gradé dans l'armée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on entend tellement dans le riz aujourd'hui. Moi, j'entends de ces choses graves. C'est pas un péché d'être militaire. C'est pas un péché d'être officier, d'être général 3 étoiles. Dieu, il voulait pas guérir le général 3 étoiles. Dieu, il voulait guérir le pécheur. Et il fallait qu'il comprenne que c'était un homme comme tout le monde. Même s'il avait réussi et qu'il jouissait d'une grande considération, c'était peut-être bien, mais c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. C'est pour ça qu'Élisée s'est même pas déplacé. Dieu voulait lui enseigner à ce que lui aussi, ce n'était qu'un homme. Et ce soir, nous qui sommes devant la face de Dieu, nous on dit voilà, je suis qu'un pauvre pécheur. T'as pas besoin de mon argent, t'as pas besoin de mes diplômes, t'as pas besoin de ci, de là. Dieu regarde au cœur. Et combien c'est important d'être bien entouré. Parce que l'orgueil peut ressortir et dire, ah ben bon, mais c'est vrai que si Dieu nous demandait quelque chose de difficile, on le ferait. Oui ou non? Si Dieu vous disait, tiens, tu vas être guéri, eh bien écoute, tu vas de Toulouse à Paris, jusqu'à Notre-Dame, et quand tu seras arrivé, à pied, et Dieu te guérira. Est-ce qu'il n'y en a pas qui le ferait? Sérieusement, s'il n'y en a pas qui le ferait? Moi, je suis sûr qu'il y en a plein qui le feraient. Et c'est là qu'on voit combien l'homme est bourré d'hérédité. Bourré. Et qu'on est influencé par la religion, même si on se dit qu'on n'est plus catholique ou qu'on n'est plus dans les atavismes de la religion, il n'empêche que ça a fait son chemin dans notre tête. Ça. Et qu'on peut arriver à nous faire croire que la grâce, ça se mérite. Surtout que le mot grâce signifie faveur imméritée. C'est que ça, justement, c'est exactement l'inverse. Et Naaman, même s'il avait une religion, parce qu'on le voit plus loin, il avait une autre religion, il avait ses idées, il avait son protocole, il avait son orgueil, et il avait son idée sur la façon d'obtenir la guérison, Dieu va lui montrer que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une clé. Elle est toute simple. Va et plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Il dit, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est certainement la pensée de Dieu pour quelqu'un ce soir. 7 fois. Mais on pourrait passer la soirée à dire, mais pourquoi 7? Pourquoi 7 fois? Vous voyez, on pourrait avoir un super débat. Pourquoi 7? Pourquoi pas 5? Non? Est-ce que ça nécessite un débat? Moi, je dis que 4 fois, ça suffit. Pourquoi 7? Oui ou non? Pourquoi 7 fois? Ça, c'est la première pensée. Si Dieu dit 7 fois, moi, je pense qu'il vaut mieux obéir. 7, vous savez, c'est le chiffre de quoi? De la perfection. Donc, ça représente l'obéissance parfaite, c'est facile à comprendre, l'obéissance parfaite de quelqu'un qui se plonge dans la présence de Dieu suffisamment de fois pour obtenir la guérison. De quoi j'ai besoin? Ben, lépreux, je ne suis plus pécheur, dans le sens où j'ai été purifié, ce soir c'est peut-être le cas, vous avez été peut-être amené à la repentance, à la croix, au baptême, vous n'avez pas besoin du pardon de vos péchés avec des P majuscules. Vous avez besoin peut-être de bonté. Est-ce que c'est bien des fois rien que de la bonté? Eh bien, je vais me plonger dans ce fleuve, parce que dans ce fleuve, il y a la bonté de Dieu. De quoi je pourrais avoir besoin? De consolation? Quelqu'un qui est dans le deuil. Moi, vous savez, l'autre jour, j'ai discuté avec une sœur, son mari est mort depuis 2 ans. Elle était toujours dans le deuil. J'ai dit, écoutez, sœur, c'est pas sérieux. Vous auriez dû obtenir cette consolation de Dieu. Je veux croire qu'on peut rester un peu plus longtemps dans le deuil. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais au bout de 2 ans, j'ai dit, quand même, c'est pas...
Elle dit, chaque fois que je vois une ambulance, je pense à mon mari.
J'ai dit, mais vous savez, moi, quand je vois une ambulance, ma mère, elle est morte il y a quelques mois. Eh bien, je bénis Dieu qu'en France, il y ait des ambulances pour amener les gens dans les hôpitaux. C'est pas une bénédiction, les ambulances? Est-ce que c'est une bénédiction?
Chaque fois que je passe devant la clinique, monsieur, quand je fais que pleurer.
Et moi, quand je passe dans la clinique où est morte ma mère, je bénis Dieu qu'on ait des endroits où il y a du confort pour soigner les gens. Ah, vous avez peut-être raison. Mais vous voyez, cette mentalité, c'est une bénédiction, une ambulance?
C'est moi, chaque fois que je vois une ambulance, je pensais à mon AVC. Que...
Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction, les hôpitaux. Et vous voyez comment on peut avoir une mentalité vraiment misérable. Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Ce soir, Dieu sait ce que vous avez besoin. Et si vous avez besoin d'amour, plongez-vous dans ce fleuve. Est-ce que c'est biblique, ça, que la présence de Dieu peut être comparée à un fleuve d'amour? Est-ce qu'on peut avoir besoin de pardon? Je ne sais pas, moi, de miséricorde. De quoi on peut avoir besoin? Aidez-moi, vous croyez que c'est facile de préparer des prédications? De quoi on peut avoir besoin? De douceur. Oui, tiens la douceur. De quoi on peut avoir besoin? De patience pour former des pasteurs. Je vous assure qu'il ouais, il en faut la patience, etc. Seigneur, donne-moi de la patience pour aimer les pasteurs stagiaires. Ouais, je l'ai dit. Mais est-ce que vous croyez que quand Dieu dit « plonge-toi cette fois », c'est pour nous ennuyer? Vous croyez que Dieu, son souci, c'est de nous agacer? Dieu voulait bénir cet homme. Il voulait bénir Naaman, je répète, pas un général qui avait des étoiles partout. Il voulait bénir un homme. Ce soir, Dieu veut vous bénir, personnellement. Et il vous dit, plonge-toi cette fois. Ne commencez pas à dire, oui, cette fois, moi, ça ne me convient pas. Mais c'est sûr que ça devait être pathétique. Je me suis imaginé la scène plusieurs fois. Quand, le général, quand même, c'était quelqu'un. C'était la deuxième personne du territoire. Quand il s'avançait dans le Jourdain, il a dû s'avancer jusqu'à la taille, non? Comment vous auriez fait, vous? Qu'est-ce que vous feriez si on vous disait, plonge-toi cette fois dans la Garonne? Qu'est-ce que vous feriez? Vous iriez jusqu'à la taille, à peu près, non? Eh bien, des bras! Qu'est-ce que vous feriez, Rachel? Franchement, si on vous... Oui, et imaginez-vous, il a dû aller jusqu'au bassin, et il a dû se plonger dans le Jourdain, il est ressorti, les cheveux... J'imagine les serviteurs qui le regardaient. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont souri? Est-ce qu'ils étaient émus? Vous savez, les scènes, elles sont toutes différentes. J'imagine peut-être qu'ils se retenaient de rire. Je ne sais pas, peut-être que la tête qu'il faisait le général, ce n'était pas son habitude d'être là, un spectacle de cette façon. Je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Je ne sais pas, moi je me suis fait plein de trucs. Mais il l'a fait. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'on ne réalise pas ce qu'il y a derrière. La guérison, la bénédiction. Quand Dieu dit « plonge-toi cette fois », croyez-moi, derrière, il y a quelque chose de bien. Et je voudrais vous encourager à ce que nous plongions le maximum de fois dans la présence de Dieu. Même si c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Dieu aurait pu le guérir autrement? Ben oui. Le prophète aurait pu. Comme il dit, je me disais, il sortira, il agitera sa main. Vous savez, beaucoup de tralala. Si Dieu a décidé de bénir cet homme de cette façon-là, vous pouvez en déduire que si nous nous plongeons dans sa parole, d'ailleurs il y a un texte, et on va terminer avec ce texte, qui nous indique que nous aussi nous devons nous plonger dans la parole. Il est où ce texte? Jacques. Jacques chapitre 1. C'est bien, c'est bien. Jacques chapitre 1er. C'est un texte qui nous enseigne la même chose. C'est dit différemment. Jacques chapitre 1er, verset 22. Vous avez entendu la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Maintenant, vivons cette expérience de se plonger. Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, comme ça a été le cas de Naaman qui a failli repartir irrité. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, on pourrait dire celui qui se sera plongé cette fois, ou qui se sera plongé suffisamment de fois dans la perfection de Dieu, eh bien, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, comment il sera heureux dans son activité. Voilà ce qui s'est passé. Vous lirez la suite de Naaman, et vous verrez combien cet homme a dû être heureux. Vous croyez qu'il aurait pu chanter certaines de ses cantiques ce soir? Vous croyez qu'il aurait pu les chanter? Un roi qui pardonne, un général de l'armée syrienne qui a offensé Israël, qui a tué des gens en Israël, qui a fait tuer des Hébreux. Non mais sérieusement, c'est pour ça que vous lirez l'évangile de Matthieu ou de Luc et vous verrez comment les Juifs étaient furieux quand Jésus a parlé de Naaman. Ils étaient furieux, ils ont voulu tuer Jésus. Ils n'acceptaient pas l'idée que Dieu ait pu bénir un arabe, parce que c'était un arabe, un syrien. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Lorsqu'un homme obéit et qu'il se plonge dans sa présence, il obtiendra ce dont il a besoin. Je ne sais pas ce que vous avez besoin, mais plongez-vous dans sa présence. Ne vous trompez pas par des raisonnements. Et je me disais, et ça devrait se passer comme si. Et ne soyez pas furieux parce que ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Écoutez les conseils des gens intelligents qui vous disent, si Dieu t'avait demandé un truc difficile, tu l'aurais fait. Alors écoute, fais simple. Si Dieu te demande simple, fais simple. Parce que ce n'est pas compliqué non plus de se plonger dans la parole, de la lire, du Seigneur, j'ai besoin de miséricorde, j'ai besoin de tendresse. Est-ce qu'on peut avoir besoin de tendresse? Oui ou non? Eh bien Seigneur, donne-moi ta tendresse. Est-ce que Dieu peut donner de la tendresse? Ben ouais. Dieu peut donner tout ce dont on a besoin. Alors on va fermer les yeux. Hein, et simplement, et peut-être que ce soir le Seigneur voulait vous rappeler ces choses pour que l'on puisse tous expérimenter cette guérison. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père, tu nous dis que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Et nous croyons que tu as voulu que cette histoire soit là dans le canon des Écritures pour que nous aussi, nous puissions dans la simplicité de la foi obtenir la guérison. Si nos corps ne sont pas malades, tu sais combien des fois nos âmes sont ravagées par la douleur. Et Seigneur, tu ne guéris pas que les corps, tu guéris aussi nos cœurs brisés. Seigneur, merci pour cette histoire. Merci de nous avoir rappelé que ce n'est pas avec de l'argent et de l'or ou des vêtements précieux que nous pouvons gagner nos bénédictions. Et si tu nous demandes de nous jeter dans ta présence, Seigneur, donne-nous cette intelligence de le faire afin que nous obtenions ce que tu as à nous donner. Merci, Seigneur. Oui, tu as dit que nous t'appellerions Père éternel. Nous sommes heureux de pouvoir conclure cette réunion en t'appelant notre Père, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cette histoire, vivons-la. Vivons-la, cette histoire. Il faut que, dans les jours à venir, vous puissiez dire, moi aussi, je me suis plongé dans la présence de Dieu. Et j'ai vraiment expérimenté que ce n'est pas des blagues, ça. C'est pas des blagues. On peut en rire. Il y a des gens qui doivent en rire de ça. Ils doivent penser que c'est des légendes. Ce n'est pas des légendes. Que vous soyez général ou femme de ménage, il n'y a pas beaucoup de différence en vérité. Ce qui est important, c'est que vous soyez obéissants. Que le Seigneur soit béni.